Si je n'ai pas parlé de vous, c'est que ça va un petit peu mieux. C'est-à-dire que vous aurez droit à des éclaircies. Mais attention, la sensation de froid sera importante aujourd'hui parce que la bise se lève. Et vous savez que quand la bise fut venue, eh ben il faut se couvrir. Moins 2 à Guéret, moins 1 à Rodez et Aurillac, 4 degrés à Paris ce matin, 12 à Bastia, on est en dessus des normales de saison. Cet après-midi, seulement 6 à 17 degrés, 6 au Puy-en-Velay, 12 à Paris, 17 à Montpellier.
Allez, couvrez-vous bien. Bonne journée à vous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le lundi 22 avril, excellente journée, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Bon réveil à vous et à la une ce matin, Europe 1 fait un premier bilan de l'opération Place Net XXL contre la drogue. Alors est-ce que la situation s'améliore? Reportage sur le terrain à Rennes, dès le début de ce journal. La campagne pour les élections européennes. Le président Macron appelé en urgence à la barre du navire Renaissance pour éviter le naufrage avec un grand discours sur l'Europe programmé ce jeudi. Dans ce journal également, Israël, toujours déterminé à en finir avec le Hamas. Aux États-Unis, les jurés sont tous là pour le procès de Donald Trump qui va pouvoir commencer. Et puis on parlera du Paris Saint-Germain, tout proche d'un 12e titre de champion de France. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'État avait promis de faire le grand ménage. Un mois après le lancement des opérations Place Net XXL contre la drogue, on va faire un bilan d'étape ce matin sur Europe 1. À Rennes, c'est plutôt encourageant. Les dealers qui squattaient les places publiques sont partis, remplacés par les enfants. Le calme est revenu. Les habitants peuvent aller et venir sans crainte pour leur sécurité, même s'ils restent méfiants pour la suite. Reportage Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest.
On était envahis, on montrait même nos carnets d'identité pour entrer chez nous.
Envahis par un business à 25 000 euros minimum par jour, du cannabis à l'héroïne juste sous ses fenêtres. Du cash si facile que soudainement les petits dealers de province se sont transformés en narcotrafiquants, défendant leur territoire à l'arme automatique contre des gangs venus d'ailleurs.
J'étais bon enfant, mais enfin, c'était pas normal que ça se fasse là non plus. Après, ça s'est dégradé et ces gens-là sont cagoulés. Les accès sont bouchés, on est obligé d'ouvrir des barrières pour pouvoir sortir de chez nous. Parce que justement, il y a eu du laisser-faire.
Depuis peu, on revoit les familles investir cette place de ZUP, après des expulsions de squats, des tonnes de gravats anti-interpellation à la benne et au prix d'une mobilisation policière forte. Un répit fragile pour les riverains, mais le nouveau chef de la police, Yannick Blouin, hein, veut y croire.
Il y a quand même un commissariat de secteur, il y a de la vie, le bâti est plutôt de bonne facture, c'est pas le cas dans bon nombre de villes où j'ai pu officier, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore au point de bascule où on s'aperçoit que le contexte est quand même beaucoup plus dégradé qu'à Rennes. Donc on ira vraiment jusqu'au bout.
Les autorités se sont donné encore 3 semaines pour en venir à bout, un délai évidemment trop court, rétorquent les voisins.
473, c'est le nombre total d'opérations Place Net, les classiques et les XXL lancés à ce jour. 3800 interpellations, 3 tonnes de cannabis et plus de 600 armes saisies. 51 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Son agression a alimenté la chronique de la violence ordinaire chez les plus jeunes. Les 3 collégiens mis en cause dans l'agression de Samara à Montpellier vont passer en conseil de discipline. Et en ce jour de rentrée scolaire, l'adolescente de 13 ans va reprendre les cours, mais à distance dans un premier temps.
La campagne pour les européennes, Emmanuel Macron appelé à la rescousse pour éviter la déroute annoncée à ce stade par les sondages.
Et le dernier en date, celui d'Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD, donne 10 points d'avance pour la liste du Rassemblement National de Jordan Bardella. La candidate Renaissance, Valérie Ayé, largement distancée et menacée par la liste socialiste de Raphaël Glucksmann. Emmanuel Macron n'a donc plus le choix, il doit s'investir directement. Maïalène Trémollet.
Talonné par le candidat du Parti Socialiste Raphaël Glucksmann et très largement devancé par le Rassemblement National, Valérie Ayé tente péniblement de conserver sa deuxième position dans les sondages. C'est donc en dernier recours qu'Emmanuel Macron est contraint d'entrer lui-même en campagne avec une stratégie double. D'une part, se montrer en première ligne aux côtés de sa candidate et de l'autre, tenter de réduire l'écart avec la liste de Jordan Bardella pour éviter à tout prix une humiliation électorale alors que le RN est donné à plus de 30% des intentions de vote. Ainsi, mercredi dernier, le président dénonçait l'hypocrisie du parti sur la question européenne. Puis vendredi, le chef de l'État encourageait publiquement sa tête de liste. « Là où je suis, j'essaierai de vous aider, d'apporter mes forces à quelques moments de la campagne », a-t-il déclaré. Prochaine étape, un grand discours sur l'Europe, jeudi à la Sorbonne. Un discours dans lequel Emmanuel Macron devrait dessiner lui-même les grandes lignes du programme de la majorité. Alors que pour l'instant, Valérie Ayé n'a dévoilé ni ses grands axes, ni les noms qui complètent provençaliste.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Le projet de loi fin de vie entame son marathon législatif. La commission spéciale de l'Assemblée démarre aujourd'hui la préparation du texte en vue de sa présentation dans l'hémicycle. Commission présidée par Agnès Firmin-Lebaudeau, Olivier Falorni, député Modem et indépendant, hérite du très stratégique poste de rapporteur général.
Il est 7h04 sur Europe 1 à l'étranger. Israël promet d'accentuer sa pression sur le Hamas.
Seul moyen d'obtenir la libération de nos otages et la victoire, ajoute le Premier ministre israélien, déclaration vidéo de Benjamin Netanyahou publiée hier à la veille de la Pâque juive.
Le Hamas a refusé toutes les offres qui lui ont été faites. C'est pourquoi nous lui porterons de nouveaux coups durs et cela arrivera bientôt. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer les otages et de remporter notre victoire.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont on sait les rapports très compliqués avec le président américain Joe Biden, ça n'a pas empêché le Congrès de débloquer une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars pour permettre aux Israéliens de restaurer leur dôme de fer. Le Proche-Orient toujours avec ses tirs de roquettes depuis l'Irak vers la Syrie. La cible, une base de la coalition internationale anti-djihadiste en Syrie. Aucun bilan pour l'instant.
On parlait de Joe Biden à l'instant. Des nouvelles de son rival annoncé pour la prochaine présidentielle. Le procès de Donald Trump va pouvoir commencer.
Et on entre dans le vif du sujet puisque les 12 jurés ont été sélectionnés. Procès à grand spectacle vu le profil de l'accusé, bien sûr. Un ex-président américain poursuivi pour manipulation comptable. Le maquillage des comptes de l'entreprise pour pouvoir acheter le silence d'une ancienne star du X. Donald Trump va donc s'asseoir sur le banc du tribunal de Manhattan et faire face à son juge. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Le procureur et la défense vont d'abord exposer leur cas avant que commence la pièce de résistance, le défilé des témoins dont la liste est confidentielle. Mais on s'attend à voir paraître la fameuse Stormy Daniels ainsi qu'un mannequin du magazine Playboy qui affirme, elle aussi, avoir été réduite au silence lorsqu'un tabloïd aurait acheté le récit d'une aventure avec Donald Trump sans intention de le publier. Le patron de ce groupe de presse devrait également être appelé. Donald Trump lui-même a fait part de son intention de témoigner. Tout cela dans une atmosphère survolté à l'extérieur de la salle d'audience et glacial à l'intérieur puisque Donald Trump s'est plaint de la climatisation. Mais c'est sans doute le moindre de ses soucis car pendant plusieurs semaines, il sera cloué à New York d'où il tentera de mobiliser l'opinion en s'insurgeant contre l'injustice qui lui est faite à chaque entrée et sortie de séance. Pendant ce temps-là, le calendrier de Joe Biden abonde en événements électoraux afin de montrer que lui n'est pas au tribunal.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Prenez vos précautions jeudi si vous avez un avion à prendre. On parle d'un jeudi noir potentiel dans les aéroports. La plupart des avions pourraient rester clous au sol.
Un préavis de grève pour le 25 avril, effectivement, déposé par le SNCTA, principal syndicat de contrôleurs aériens, rejoint d'ailleurs par d'autres centrales. Les syndicats protestent contre le projet de réorganisation des services de navigation en interne. La grève aussi en Seine-Saint-Denis, mais dans les écoles. Rentrée scolaire perturbée aujourd'hui dans le département à l'appel d'une intersyndicale qui réclame notamment la création de 5000 postes d'enseignants.
Le football, le Paris Saint-Germain, tout droit vers un 12e titre de champion de France.
Ouais, Paris, large vainqueur de Lyon 4-1 hier soir. Victoire nette et sans bavure pour clore la 30e journée de Ligue 1. Les Parisiens pourraient être sacrés champions dès mercredi à l'occasion d'un match en retard de la 29e journée. Ce sera contre Lorient. En attendant, eh bien, le capitaine du PSG, Marquinhos, goûte le plaisir du travail bien fait.
On enchaîne deux très bonnes prestations, très bons matchs, très bons résultats. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée-là. On a beaucoup parlé dans le vestiaire, surtout aujourd'hui, pendant la semaine, qu'il ne faut rien lâcher maintenant. C'est le moment important de la saison qui est arrivé, moment décisif. Et surtout les matchs après Champions League, il y a des moins bons après. Et aujourd'hui, on a essayé vraiment de donner une bonne réponse. Et je pense que l'équipe a réussi.
Le capitaine parisien Marquinhos et cette victoire du PSG a été obtenue parce que ça a quand même son importance en laissant Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le banc des remplaçants. Il y a de la ressource au PSG.
Absolument, hein. Absolument. De la profondeur, comme on dit. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1. Très bon début de journée. À suivre l'édito éco.
C'est vrai que c'est très difficile hein, pour la génération Z, celle née après l'an 2000, d'entrer dans son époque. Eh bien, on va voir avec Nicolas Bouzou que peut-être on fait fausse route, qu'on se trompe. C'est la génération de jeunes la plus riche de l'histoire, nous disent certaines données statistiques. On va voir ça avec Nicolas Bouzou. Ce sera juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, la magistrate Béatrice Brugère. Est-ce que l'internat, c'est la solution à la crise de la violence chez les plus jeunes? On va voir ça avec elle.
7h, 9h.
Europe 1 matin. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô, patron ?
Alors, ça envoie du steak ?
Et même du steak de porc, patron. En ce moment, les 5 steaks de porc sont à 3,49€ les 400 grammes au lieu de 4,49€, moins 22%.
70 centimes le steak de porc.
Et origine France, hein ?
Oh, les cochons !
Ah oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 8,73€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Bonjour. Vous connaissez le dicton ? On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Verisure, la protection adaptée à chacun.
C'est à mon tour de prendre soin de mes parents pour qu'ils soient en sécurité, seuls chez eux.
Ils ne seront jamais seuls avec le bouton SOS de l'alarme Verisure. Nos agents réagissent 24 heures sur 24 et alertent les secours si besoin. Rendez-vous sur Verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à conditions. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Anna a suivi une formation de technicien de maintenance. En seulement 2 ans, elle est passée de préparatrice de commandes à technicienne diplômée. Désormais, elle porte une combinaison et un casque de chantier. Et sa fille trouve qu'elle ressemble à une super-héroïne. Chez Amazon, nous sommes résolus à favoriser les formations diplômantes pour les salariés des sites logistiques. Sous condition d'éligibilité.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la magistrate Béatrice Brugère.
Bonjour Béatrice Brugère.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Est-ce qu'il faut durcir la justice des mineurs ? Est-ce seulement possible ? On en parle ce matin avec vous, Béatrice Brugère. Après toute cette série d'affaires de violence impliquant des adolescents, parfois très jeunes, jusqu'au meurtre, on pense à celui de Philippe à Grande-Synthe, massacré par des 14-15 ans. On voit que les propositions fusent, notamment du côté de Gabriel Attal, on va en parler ensemble. Mais peut-être une première question toute bête, est-ce qu'il y a urgence à changer la loi, Béatrice Brugère ? Je crois me souvenir qu'il y a eu une réforme de la justice des mineurs qui date de quoi ? Il n'y a même pas 3 ans.
Oui, alors c'est toujours étonnant et c'est assez classique maintenant, pour ne pas dire récurrent dans le ministère de la Justice, c'est qu'une loi à peine votée est déjà mise sur le grill en imaginant qu'elle n'est plus adaptée.
Est-ce que c'est le cas ?
Oui, c'est souvent le cas malheureusement parce que les lois sont mal faites, mal pensées, mal ficelées, mal dotées aussi en moyens parce que derrière une loi il faut aussi des hommes et des femmes et des moyens et notamment sur la justice des mineurs, c'est peut-être là où il y a une problématique très cruciale. Pourquoi ? Parce que la moitié, il faut quand même savoir que la moitié des mineurs délinquants sont aussi des mineurs qui sont pris en assistance éducative. Or, aujourd'hui, le volet dont on ne parle pas, qui est la justice mineure assistance éducative, est effondré. On n'a pas les moyens. Donc on voit bien que...
Comment ça s'est effondré ? Qu'est-ce que
c'est-à-dire
vous
voulez dire par là ? Alors, c'est peut-être pas notre sujet, mais je vais le dire rapidement.
Non, bien sûr.
Vous savez qu'aujourd'hui, on a une affluence de mineurs non accompagnés qui sont pris par les départements. Or, c'est les départements qui pilotent...
Donc les MNA, c'est-à-dire des mineurs étrangers sans leurs parents.
Hein. Qui pilotent aussi en partie l'assistance éducative. Et aujourd'hui, on a un système de saturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place. Les départements n'ont plus de place.
Les mineurs étrangers accaparent les moyens qui pourraient aller ailleurs.
Pas que, mais en tout cas, ça renforce la faiblesse, si je puis dire, qui sont des mineurs, pour les mineurs, pardon, sur la protection. Et on a aussi une grande difficulté sur l'organisation de la protection de l'enfance. C'est un autre sujet. Mais c'est un sujet qui n'est pas totalement anodin, puisqu'on voit qu'un mineur sur deux qui est délinquant est aussi un mineur qui est pris en charge ou qui devrait être pris en charge. Ça serait plus juste.
J'aimerais que vous aidiez les auditeurs d'Europe 1 à évaluer bien la situation, parce que je vous avoue, hier, j'étais un peu étonné d'entendre Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, nous livrer des données sur la délinquance des mineurs. Il dit que la part des mineurs dans la délinquance en général est stable,
voire en baisse. Alors, il cite la région parisienne, mais je crois savoir qu'il y a des données du ministère de la Justice qui confirment cette tendance plutôt baissière. Il nous dit, les mineurs, finalement, c'était 13% des mis en cause en 2023. Bon, circuler, il n'y a rien à voir, hein, d'une certaine manière. On se ferait des idées, Béatrice Bougère.
Sans vouloir contredire le préfet de police, qui est quelqu'un de très important, ce n'est pas tout à fait juste. Parce qu'en réalité, il faut regarder la courbe très longue. Si on regarde depuis 30 ans, la hausse est significative. On est quasiment au double des mineurs mis en cause. Mmh. En effet, si on regarde sur une toute petite période, 2019-2021, c'est stable. Sauf que, moi, je renvoie sur un rapport qui a été fait par le Sénat en 2022, qui est très intéressant, qui dit en deux très rapidement. Un, les statistiques sont pas fiables. Deux, elles sont sous-investies par le ministère de la Justice, donc elles sont partiales et donc fausses. Trois, on n'arrive pas à comprendre parce que justement, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur n'ont pas les mêmes statistiques, déjà, pour commencer, et elles ne sont ni à jour, ni fiables. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, surtout, c'est qu'il y a une mutation, et ça c'est beaucoup plus important, dans la forme de délinquance des mineurs. Deux mots. Un, ils sont de plus en plus jeunes sur des faits ultra-violents.
Oui. Deux, c'est lié... Alors ça, Laurent Nunez l'a précisé en disant il n'y a peut-être pas plus d'actes, mais en revanche, on trouve des enfants de plus en plus jeunes.
Parce que ce n'est pas parce qu'on les poursuit moins ou qu'on les condamne moins qu'il n'y a pas plus d'actes. Oui. Il y a aussi, il faut le savoir, un mineur sur deux qui bénéficie d'une alternative aux poursuites. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc tout ça devrait être regardé de très très près. Or, c'est sous-investi par le ministère. Donc avant de vouloir réformer ou de tirer des conclusions, faut-il encore avoir une cartographie fiable, or ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on sait, c'est que par exemple, il y a beaucoup de surreprésentation d'une forme de délinquance dans les atteintes aux personnes, moins que les atteintes aux biens, le narcotrafic est de plus en plus jeune, et surtout ce dont personne ne parle, une surreprésentation très inquiétante d'agressions sexuelles de mineurs sur mineurs en explosion, dont des mineurs extrêmement jeunes, c'est-à-dire moins de 13 ans. Et ça, si on regarde les chiffres, ça fait extrêmement peur.
Oui, et des couteaux dans de plus en plus de dossiers,
oui,
ça, tous les magistrats le disent. Alors, il se trouve que Gabriel Attal, parmi ses propositions jeudi dernier, a annoncé vouloir remettre en cause le principe d'une peine réduite de moitié pour les adolescents de plus de 13 ans par rapport aux adultes. C'est cette excuse de minorité qui fait qu'on divise par deux en moyenne les peines et on fait échapper aux mineurs à tout un tas de choses, notamment les gardes à vue avant l'âge de 13 ans, etc. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que quand on regarde dans le détail, c'est vrai qu'on est un peu étonné, on a l'impression que en dessous de l'âge de 16 ans, pour faire simple, on est exempté de justice, de sanctions.
Alors, c'est pas tout à fait ça, mais disons que notre système veut privilégier les sanctions éducatives. En dessous de 13 ans, il n'y a pas de sanctions pénales, ce ne sont que des sanctions éducatives.
Or, vous nous avez dit que le système éducatif, en l'occurrence, il est à bout de souffle.
Alors c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est la protection des mineurs, mais c'est deux choses différentes. Mais les sanctions éducatives aussi, il faudrait les évaluer en réalité. Notre difficulté aujourd'hui, c'est que on n'a pas d'évaluation, on n'a pas de cartographie, donc tout le monde navigue un peu comme ça.
Oui.
Donc c'est le fait divers qui, j'allais dire, donne le baromètre. Or, le fait divers, il n'est pas anodin parce qu'il dit aussi beaucoup de choses. Moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, il faut revoir l'excuse de minorité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être la règle, elle pourrait peut-être, pour les 16, 18 ans, enfin les 16, 17, devenir l'exception.
C'est ce que propose Gabriel Attal.
Mais je pense que c'est une très bonne mesure, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une visibilité et puis une adaptation plus précise par rapport à des faits de délinquance très graves. Je pense aussi, parce que c'est une de nos propositions, qu'il faut tirer les leçons des émeutes où on s'est aperçu qu'il y avait 30% de jeunes extrêmement violents sur lesquels il n'y a pas de possibilité de comparution immédiate. Or, la difficulté de la justice des mineurs, c'est un temps trop long dans la réponse et parfois une réponse inadaptée.
Par exemple, entre 16 et 18 ans, il n'y a pas de comparution immédiate.
C'est impossible, la loi ne le prévoit pas.
Je pense que
c'est un débat qui doit être ouvert et qui est intéressant et je vois que Gabriel Attal l'a ouvert. En tout cas, nous, on est favorable.
Alors, dernière question. Votre syndicat est très favorable à l'idée, et vous n'êtes pas seul, d'ailleurs, à cette idée qu'il faut, aller vers des sanctions, même très courtes, très brèves, mais il faut marquer le coup. Chose qu'on ne fait pas. Alors, le ministère de la Justice nous dit, oui, mais attendez, les délais de traitement judiciaire pour les mineurs, ils sont passés de 15 mois à 9 mois. Bon, ce serait beaucoup mieux. Bon, c'est sans doute très insuffisant, mais quand vous dites des sanctions très brèves et qui arrivent très tôt dans le temps.
Alors, j'essaie d'être très brève également. En vérité, on voit encore que les statistiques, on en fait un peu ce que l'on veut. En fait, on a fait une césure. C'est-à-dire que oui, on a raccourci le temps de la culpabilité, c'est-à-dire que l'audience de culpabilité est plus courte, mais l'audience de la peine, c'est-à-dire de la sanction, est pas plus courte, mais elle est voire plus longue. Donc, vous voyez, on joue sur les mots. Moi, je pense qu'en fait, ça n'a pas de sens quand un mineur sur deux est jugé après sa majorité. Voilà, ça c'est une autre aussi vision que l'on peut voir. Donc, est-ce que ça a du sens d'être jugé quand on est majeur et qu'on a fait des faits mineurs ? Je ne crois pas. Je pense que sur les faits extrêmement grave, il faut une sanction extrêmement rapide, parce que ça c'est de la pédagogie. On voit quand même qu'on a aussi une frange de mineurs très violents qu'il faut stopper dans les actes de délinquance. J'ajoute aussi que le taux de récidive est très important chez les mineurs, donc c'est un échec. Donc il faut se remettre en question, et les peines ultra courtes, c'est-à-dire entre 7 et 14 jours, pourraient être une solution adaptée à cette petite délinquance qui terrorise la majorité des mineurs, car n'oublions jamais que les victimes des mineurs sont des mineurs.
Merci beaucoup Béatrice Brugère d'être venue nous voir ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats Force Ouvrière. Bonne journée à vous.
Merci.
Il est 7h20.
7h-9h, Europe 1 matin.
L'édito écho sur Europe 1.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas.
On continue à parler des jeunes, Nicolas, sous un autre angle. Vous nous dites que non, ce n'était pas forcément mieux avant, notamment pour la fameuse génération Z, c'est les jeunes nés après l'an 2000.
Ouais, alors s'il y a une idée reçue qui est vraiment ancrée, c'est en effet celle selon laquelle c'est plus difficile qu'avant pour les jeunes. Les boomers en particulier, nés après la guerre, auraient fait flamber la dette, réchauffer le climat, pas construit assez de logements, et notre jeunesse se retrouverait face à l'abîme du réchauffement climatique, du déficit public, de l'impossibilité d'accéder à l'immobilier et d'une situation économique plus que jamais défavorable. C'est le philosophe Pascal Bruckner, dans son dernier ouvrage qui s'appelle « Je souffre, donc je suis », qui explique bien cette tendance de chaque groupe social à se victimiser pour en tirer un avantage.
Mais alors, c'est pas vrai, les jeunes ne sont pas dans une situation moins favorable que leurs aînés.
Alors, une étude de la Fed, la Banque Centrale Américaine, qui vient d'être révélée par le journal britannique The Economist, nous dit des choses éclairantes qui vont à l'encontre des idées reçues. Cette étude porte sur le revenu médian des Américains après impôts, corrigé de l'inflation, et l'étude compare les revenus des générations. Donc on regarde le niveau de revenu des boomers, la génération X, née entre 1965 et 1980, les millennials, ceux qui sont nés juste avant l'an 2000, et puis la génération Z, celle qui est née au 21e siècle. On voit deux choses. D'une part, pour chaque génération, le pic de revenus est à 50-55 ans. Bon, ça veut dire que c'est quand on a entre 40 et 50 ans qu'il faut épargner, il faut se débrouiller pour avoir remboursé ses crédits avant 60 ans. La deuxième chose, et la plus inattendue, c'est que la génération Z est la plus riche de toutes en termes de revenus corrigés de l'inflation. La génération la plus jeune est donc la plus favorisée économiquement. Alors, ces données portent sur les États-Unis, mais on n'a pas de raison de penser que les évolutions seraient différentes en Europe.
C'est assez contre-intuitif, mais comment ça s'explique, Nicolas ?
Alors, deux choses, par la croissance économique d'abord, qui augmente le revenu moyen génération après génération, et puis par le faible niveau du taux de chômage aujourd'hui par rapport aux générations précédentes. Et d'ailleurs, aux États-Unis, The Economist rappelle que la génération Z a déjà conquis une grande partie du pouvoir économique. Il y a plus de travailleurs à temps plein de la génération Z que de boomers. Des milliers de jeunes dirigent de grandes entreprises, ont des responsabilités politiques. En fait, dans le discours, la génération Z est une victime. Dans les faits, elle réussit brillamment.
Voilà, heureux comme un jeune en 2024, en substance. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.
Europe 1. Il est 7h22 sur Europe 1.
L'actualité sur Europe 1, c'est aussi, vous le savez, tous les soirs avec Laurence Ferrari.
Une heure de débat, d'analyse et de décryptage avec Laurence Ferrari et ses invités. C'est du lundi au jeudi de 18h à 19h pour faire le point sur toute l'actualité de la journée. C'est sur Europe 1 et sur CNews.
Bonne journée à vous, bon réveil, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 22 avril, le journal permanent Christophe Lamar sur Europe 1.
Il faut revoir l'excuse de minorité pour les mineurs délinquants. Béatrice Brugère, secrétaire générale d'Unité Magistrats, sur Europe 1 ce matin. Elle approuve la proposition de Gabriel Attal sur ce sujet. Béatrice Brugère estime par ailleurs que les peines ultra courtes, quelques jours seulement, pourraient être utiles. Garde à vue prolongée pour le propriétaire d'une attraction foraine à Blois. Les investigations se poursuivent pour comprendre comment une femme de 27 ans a pu être éjectée d'un manège et tuée. Sa famille a porté plainte contre X pour homicide involontaire. Enfin, le PSG, tout proche d'un 12e titre de champion de France. Les Parisiens, large vainqueur de Lyon 4-1 hier soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1.
le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour.
Le 22 avril 1989 en Chine, place Tiananmen à Pékin, 200 000 étudiants chinois se rassemblent dans l'espoir d'un changement de régime, mais lors d'Autriche, leurs espoirs seront très vite anéantis.
Oui, et sur la place Tiananmen, cette immense étendue de pavés, la plus grande place du monde, ces étudiants rassemblés sous le portrait de Mao Zedong demandent plus de liberté. Ils chantent en chœur l'Internationale communiste.
Je demande au gouvernement un dialogue sincère. Nous voulons plus de démocratie.
Cette jeunesse chinoise ne veut plus de la corruption des apparatchiks et veut faire de la Chine un pays riche et moderne. Leur sit-in va durer jusqu'à l'aube. En mai 1989, le premier ministre chinois reçoit les leaders étudiants, mais l'armée rôde toujours autour de la place Tiananmen. Certains jeunes sont tétanisés et la radio de fortune qu'ils ont installée sur la place diffuse des messages de prudence.
Si l'armée arrive, ne résistez pas, quittez la place, mais personne ne veut croire ici que l'armée du peuple marchera sur le peuple. Sur la place Tiananmen, Claude Bellet, Europe 1.
Mais le mouvement est écrasé par les chars le 4 juin 1989. À l'aube, les rues de Pékin sont devenues une zone de guerre. L'armée tire sur les manifestants, témoignage exceptionnel sur Europe 1.
Ils visent surtout la mitrailleuse. Une fois les gens tombent, ils font passer les tanks dessus. Après, ils mettent du feu sur les cadavres.
Quelques jours plus tard, la froide machine totalitaire poursuit son chemin. On tue pour imposer le silence et la peur. Des exécutions ont lieu avec toujours le même scénario. À genoux, une balle dans la nuque et en public. Des exécutions d'ouvriers et de marginaux d'ailleurs, plus que d'étudiants, explique à l'époque l'historienne Marie-Claire Bergère.
Il peut y avoir aussi une certaine solidarité de la classe dirigeante, car beaucoup d'enfants de dirigeants sont eux-mêmes des étudiants et il serait difficile d'exercer une répression sélective entre les étudiants fils de cadres et les étudiants venant de familles plus modestes.
L'histoire retiendra aussi cette photo d'un homme au milieu de la route faisant face à une colonne de chars pour les empêcher de passer. Il porte dans chaque main un sac à provisions. Personne ne sait ce qu'il est devenu.
Merci Lord d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Nous sommes lundi, Dimitri, ce qui signifie...
Nouveau cadeau.
Exactement.
Pour les auditeurs d'Europe 1.
Vous voulez un petit indice sur le cadeau de la semaine? Vous l'avez compris, Europe 1 vous envoie en croisière, 5 jours avec CroisiEurope, la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe, pour découvrir les trésors vinicoles du sud-ouest. Au magnifique Blaye, Libourne, Saint-Émilion seront les étapes de votre croisière à la découverte du Médoc. Tout est compris à bord. Hein. Europe 1 s'occupe de tout. Hein. La cuisine raffinée, les boissons, les animations, les visites guidées, les excursions vous seront également proposées. Vous pouvez découvrir ce beau programme sur croisiEurope.com. Et félicitations à Pierre qui écoute Europe 1, la Roche-Blanche dans le Puy-de-Dôme, c'est au sud de Clermont-Ferrand, et Pierre qui remporte le séjour à l'hôtel Pinarello en Corse qui était à gagner la semaine dernière. Pierre a envoyé son SMS jeudi matin et c'est la première fois qu'il gagne sur Europe 1. Bravo à vous Pierre et merci pour votre fidélité.
Félicitations Pierre et bonne chance à toutes et tous. La question du jour la voici: dans quelle ville se trouve Tiananmen, la place Tiananmen en Chine? Est-ce à Pékin ou à Shanghai?
Pour tenter votre chance ce matin, vous envoyez croisière au 7 39 21 par SMS, donc 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous. Notez qu'à 8h10, Thibaut de Montbrial sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
L'avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, rendez-vous dans 3 quarts d'heure. Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À tout à l'heure sur Europe 1.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour.
Quand vous me dites «
Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détails et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous.
3 000 € de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 € par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2 650 €. Bonus éco 4 000 €. Remise éco Fiat 3 000 € et prime à la conversion de 1 500 € déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer.
Fiat.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Avec Sourcing Plus, l'APEC aide les TPE-PME à recruter les profils qui correspondent vraiment à leurs besoins. Plus d'infos dans un instant.
Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370 € par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800 € réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pensez à covoiturer.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Anissa Haddadi, la météo, le temps est très perturbé à l'est ce matin.
Oui, à l'est, entre l'Alsace et les Alpes, c'est vrai qu'on a un ciel couvert toute la journée avec de nouveau de la neige. Soyez prudents du côté du Jura et des Vosges, de la neige à basse altitude ce matin. Dès 400 mètres, on a de la neige sur le massif central et sur les Pyrénées. Pour les Pyrénées, c'est à partir de 800 mètres. Donc c'est couvert toute la journée sur la façade est. À l'ouest, on a des nuages ce matin avec des petites averses le long des côtes de la Manche. Le ciel va devenir de plus en plus gris au fil des heures le long des côtes de la Manche. Et ailleurs, écoutez, sur la moitié nord, au nord de la Loire, c'est encore couvert. Mais sur la moitié sud, on verra de belles éclaircies. La bise se lève, il va faire de plus en plus frais avec du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 80 km/h. Et 6 à 17 degrés, les températures sont encore en baisse, surtout dans le sud aujourd'hui.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, videra-t-on les tribunaux pour mineurs en remplissant les internats? Gabriel Attal inaugure ce jour à Nice un établissement pour les élèves à la dérive, insuffisant pour enrayer la violence grandissante chez les jeunes. C'est en tout cas ce que rétorquent certains représentants de la justice qui réclament davantage de moyens. L'actualité ce matin, sont aussi les familles de victimes des attentats de Nice qui vont devoir se replonger dans l'horreur. Deux proches du terroriste comparaissent en appel. Et puis les Français complètement perdus dans le calendrier vaccinal, les autorités sanitaires veulent le simplifier. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Mieux vaut prévenir avant d'être contraint de condamner. Ce sont les deux axes du plan de l'exécutif pour lutter contre la flambée de violence chez certains jeunes. D'un côté, Gabriel Attal souhaite étendre les comparutions immédiates dès 16 ans. De l'autre, le Premier ministre inaugure aujourd'hui un internat expérimental à Nice pour les élèves en difficulté. Deux mesures pour soulager une justice des mineurs à la peine, Jean-Baptiste Marty.
Des mineurs délinquants de plus en plus jeunes, 15 ans en moyenne, de plus en plus violents, mais surtout de plus en plus nombreux, plus 5% par rapport à 2018, avec en face pas ou peu de réponses pénales, souvent par manque de budget, selon Anne-Sophie Lagance, avocate au barreau de Paris.
C'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens, on n'a pas suffisamment d'éducateurs, on n'a pas suffisamment de magistrats, et on a des décisions, un temps judiciaire qui est très long.
Car le constat est accablant, entre 9 mois et 1 an et demi, voilà le délai pour juger ces jeunes délinquants. Un temps long qui, dans de nombreux cas, se termine par un classement sans suite, faute de suivi. Une justice française également trop clémente, selon Georges Fenech, ancien magistrat.
Vous avez des mineurs qui, jusqu'à l'âge de 18 ans, n'auront pas fait un seul jour de privation de liberté, voyez-vous. Parce qu'on ne veut pas, on considère que la prison est criminogène. Or, toutes les études montrent, et les pays nordiques viennent de le faire, et avec succès, qu'une courte peine d'emprisonnement, au départ, est extrêmement dissuasive. dissuasif pour l'avenir.
Une solution pourtant écartée en France avec ce leitmotiv, encore et toujours, éviter la casse-prison.
Et symbole récent de cette violence chez les jeunes, l'affaire Samara à Montpellier. L'adolescente passée à tabac ne va reprendre les cours qu'à distance, explique son collège, établissement que les trois mineurs mis en examen dans cette affaire ont interdiction d'approcher en cette rentrée en attendant leur procédure disciplinaire. Et puis toujours à Montpellier, près d'un mois après leur lancement, quel bilan pour les opérations PlaceNet XXL contre le narcotrafic? Les dealers sont de retour dans certains quartiers de la ville et ils défient l'État. Vous l'entendrez dans le journal de 8h.
Europe 1, il est 7h34. La majorité présidentielle fait du surplace dans les sondages pour les élections européennes et pourtant, Emmanuel Macron pense déjà à la suite.
Sur la scène du grand amphi de la Sorbonne, jeudi, le chef de l'État va tenter un ultime coup d'accélérateur, mais avant ce discours, en coulisses, le président prépare une autre échéance, les municipales de 2026, Arthur Delaborde, revue d'effectifs et pression mise sur les figures de son camp pour qu'elles se présentent.
Ancrer le macronisme dans les territoires avant de quitter l'Élysée, c'est l'ambition du chef de l'État. Il faut construire des digues au niveau local dans l'hypothèse où le RN prendrait le pouvoir dans 3 ans, explique un ministre. Le camp présidentiel part de loin. Les dernières municipales en 2020 s'étaient soldées par un échec cuisant, en particulier dans les grandes villes. Pour éviter la reproduction de ce scénario en 2026, Emmanuel Macron s'active en coulisses. Un membre du gouvernement confirme avoir reçu récemment un SMS de la part du chef de l'État pour l'inciter à se lancer. Plusieurs figures de la Macronie plancheraient déjà sur leur candidature. La ministre de la Culture, Rachida Dati à Paris, sa collègue chargée de l'enfance, Sarah El Haïry à Nantes, le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave à Bordeaux, la secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Mirales à Montpellier, la députée Violette Spilbou à Lille ou encore la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache à Marseille, même si certains voient plutôt l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, comme tête de liste dans la cité phocéenne.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et la politique avec ce projet de loi sur la fin de vie qui entame tout à l'heure son marathon parlementaire. La commission spéciale à l'Assemblée débute ses auditions de professionnels de la santé aujourd'hui, mais 13 organisations de soignants alertent dans une lettre dévoilée par le Figaro. Elles ont demandé à être entendues. Ce ne sera pas le cas.
7h35, une épreuve de plus pour les familles de victimes des attentats de Nice.
Le procès en appel de 2 proches du terroriste s'ouvre aujourd'hui. Ils avaient été condamnés à 18 ans de prison. En première instance, la justice leur reprochait d'avoir soutenu moralement ou financièrement l'assaillant, lui qui avait fauché et tué 86 personnes sur la promenade des Anglais. Parmi ses victimes, la fille de Thierry Vimal, elle n'avait que 12 ans à l'époque.
C'est dur, oui, parce qu'on va revoir les accusés, ce qui ne fait jamais plaisir. On va se rappeler les faits, ce qui ne fait jamais plaisir. On va écouter des témoignages, on va livrer le nôtre si on a envie. C'est des moments très durs. Et en même temps, c'est aussi des moments qui, paradoxalement, font du bien aussi. C'est des temps où on est sur ça, parce que les gens vivent leur vie, les gens pensent à autre chose, même les gens, même les Niçois, tout ça, sont passés à l'état d'autre chose, et nous, on est un petit peu seuls là-dedans, et on se dit qu'il va y avoir plusieurs semaines qui vont être centrées là-dessus. On va parler que de ça, on va éclaircir des points. Moi, ce que je peux faire pour l'avoir de ma fille, c'est suivre ça du plus près pour essayer de comprendre. Voilà. Moi, la première instance n'a pas suffi, pour moi, n'a pas suffi à faire éclater la vérité. On sait pas, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas fait dans ma tête de scénario, ça s'est passé comme ça. Je crois que c'est un peu ce que disait le président Ravio aussi à la sortie, il dit qu'il reste des zones d'ombre. Ça reste quand même la question et un mystère, comment s'est goupillé cet attentat, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est mis en place.
Un témoignage recueilli au micro européen de Stéphane Place. Aux États-Unis, c'est aussi un procès très attendu, celui de Donald Trump au pénal, le premier pour un ex-président. Après la constitution du jury ce week-end, place au fond de l'affaire Stormy Daniels, du nom de l'actrice X que l'ancien chef d'État est accusé d'avoir, dont l'ancien chef d'État est accusé d'avoir acheté le silence.
Venons-en à ce rapport publié ce matin qui résume tout le paradoxe des Français sur la vaccination.
Elle est en progression pour les vaccins nouvellement recommandés, mais l'objectif est non atteint. Contre la rougeole, toujours moins de 95% de couverture vaccinale. Une raison est avancée par la Haute Autorité de Santé. Les Français ne s'y retrouvent plus trop dans le calendrier trop éparpillé où il faut être injecté. D'où son rappel, sa nouvelle feuille de route, Yasmine Akatou. Il y a 3 tranches d'âge où il faut se faire vacciner.
Oui, tous les parents le savent, plusieurs vaccins doivent être faits entre la naissance et les 2 ans et demi de l'enfant. En revanche, beaucoup d'entre nous ignorent qu'entre 11 et 14 ans, puis à partir de 65 ans, il faut se refaire vacciner. Des périodes où le système immunitaire est vulnérable, alerte Anne-Claude Crémieux, professeure en infectiologie et présidente présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS.
Les adolescents, ils vont avoir des interactions sociales très importantes, ce qui va les amener à être au contact avec des agents pathogènes, comme par exemple le méningocoque, qui est évidemment le papillomavirus. Et puis les plus de 65 ans, à ce moment-là, nos défenses contre les infections sont moins efficaces. On doit tenir compte de sa fragilité plus importante aux infections et se faire vacciner.
L'infectiologue en est convaincu. C'est grâce à ces explications simples que les personnes concernées retiendront le calendrier vaccinal. Alors avec ou sans carnet de santé à jour, à l'adolescence et après 65 ans, il vous est recommandé de faire le point avec votre médecin ou votre pharmacien.
Yasmina Katou, la spécialiste santé d'Europe 1. Et puis un mot de football et de Ligue 1. On attendait un gros choc hier soir. On a plutôt eu une forme de correction. Le Paris Saint-Germain a balayé Lyon 4-1. Monaco a pris la deuxième place du classement à Brest en allant battre les Bretons 2-0.
Voilà, ce qui retarde la qualification européenne des Brestois. Ils en rêvent. Merci beaucoup Victor Pourchet. C'était votre journal.
Il est 7h39. Très bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Allez, à suivre l'édito international d'Europe 1. Gros soulagement à Kiev. Ce week-end, les États-Unis ont enfin voté l'énorme plan d'aide à l'Ukraine. Mais alors, pourquoi ça se débloque maintenant? Est-ce que Donald Trump aurait par hasard levé son veto? On va voir ça avec Vincent Hervouet dans un instant.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les besoins s'envolent, les entreprises peinent à recruter. Virginie Pires, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante à l'APEC. Comment aidez-vous les entreprises à embaucher?
Eh bien, la première étape, c'est de leur faire comprendre que le mouton à cinq pattes n'existe pas. À l'APEC, nous les aidons à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus qui va de la rédaction de l'offre à la présélection des candidats.
Alors Antoine Dezalet-Joly, bonjour, vous êtes DRH d'Eurogroupe Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et management, et vous avez eu recours au service de l'APEC. Racontez-nous.
Eh bien, nous souhaitions lutter contre les discriminations liées à l'âge et recruter des consultants seniors. Virginie m'a proposé un dispositif d'immersion professionnelle des candidats pendant une semaine pour qu'ils découvrent notre entreprise, notre métier et afin de tester leur aptitude à s'intégrer et à apprendre.
Et vous avez recruté?
Oui, grâce à cet accompagnement de l'APEC, nous avons embauché 3 talents. Le dispositif a été très pertinent. Nous le poursuivons et en plus, c'est gratuit.
Alors, Virginie, comment fait-on pour rencontrer un consultant de l'APEC?
Eh bien, il suffit de prendre rendez-vous sur apec.fr.
Merci.
Renault. L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Europe 1. Très bon début de journée avec Europe 1. Dans un instant, le Club Culture avec la série de la semaine choisie par Héloïse Goy et le livre du jour proposé par Nicolas Carreau. C'est dans un instant sur Europe 1. Il est 7h40.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 1,29€.
L'artichaut ?
Très oui patron, en ce moment chez Lidl, il est à 1,29€.
1,29€ l'artichaut ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous !
Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%. Soit 1,10€ l'artichaut. Oh, ils sont archi chauds.
Et toi, t'es archi...
archi mal, oui. Je sais pas
trop. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est 7h42, merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de semaine et bonne rentrée aux académies de Paris, Versailles, Créteil, Montpellier, Toulouse. Aïe, aïe, aïe. Bon courage pour ce lundi matin. Dimitri Pavlenko.
Ça doit être dur le réveil, on pense à vous, on compatit. Dans 10 minutes, l'édito politique, on va parler de Jordan Bardella ce matin. Grand entretien dans le journal du dimanche hier pour le leader du RN aux européennes. Il veut faire de ces élections un référendum, dit-il, pour ou contre le délitement de la France. On en parlera avec Vincent Trémollet de Villers. Le Club Culture d'Europe 1 matin, au sommaire, le livre du jour. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour, le nouveau roman d'Hervé Le Tellier. 4 ans qu'on l'attendait, le prix Goncourt 2020.
Ouais. Ah, le Goncourt millionnaire en plus, hein, le plus gros vendeur de Goncourt de l'histoire de ce prix. La série de la semaine également. Bonjour Héloïse Gouin.
Bonjour Dimitri. Michael Douglas dans la peau de Benjamin Franklin avec une série historique absolument délicieuse.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous revenez Vincent ce matin sur le vote historique de la Chambre des représentants qui a enfin débloqué l'aide réclamée par la Maison-Blanche, notamment aide à l'Ukraine.
Oui, souvent l'Amérique varie. Une soudaine Pentecôte a frappé une petite partie des élus républicains emmenés par leur speaker, Mike Johnson, c'est le nom à retenir. Il leur a fait voter l'aide de 95 milliards à Israël, à Taïwan et aussi à l'Ukraine, c'est-à-dire une aide contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran. Mike Johnson a parlé de l'axe du mal. Ça rappelle l'époque où la volonté de puissance américaine était sans complexe, où la politique étrangère du président profitait d'un soutien bipartisan. Ce retour de l'Amérique qui s'assume a été applaudi samedi par les néocons, par les faucons, par les vrais convertis aussi, comme Mike Johnson qui croit à son rôle messianique. À Kiev, Volodymyr Zelensky cache mal son amertume. L'administration Biden voulait lui livrer des armes et il a dû attendre 6 mois. Mais à l'inverse, l'administration Biden ne voulait pas qu'il bombarde à qui mieux les raffineries russes au risque de déclencher la flambée des cours pétroliers qui serait une sorte d'apocalypse en période électorale, et Kiev continue de plus belle. Pour le meilleur comme pour le pire, on ne peut plus compter sur la toute-puissance américaine.
Alors ce vote, Vincent, c'est une défaite pour les isolationnistes américains et pour Donald Trump.
Oui, le Donald n'est pas au mieux de sa forme ces jours-ci, il n'est pas au top, il fait de la figuration muette au tribunal, avec un air rogue en arrivant et une tête d'enterrement à la sortie, et comme si ça ne suffisait pas à ralentir sa campagne, il a dû annuler son meeting prévu en Caroline du Nord à cause de la météo. Maintenant, quand on regarde dans le détail, on voit que Mike Johnson a fait le pèlerinage la semaine dernière à Mar-a-Lago en Floride. Ce n'est pas Brutus, il a obtenu le feu vert du patron. Et la meilleure preuve, c'est qu'après le vote, les représentants les plus trumpistes n'ont pas cherché à le faire tomber. Peut-être que Donald Trump s'est laissé convaincre que l'effondrement de l'Ukraine serait une catastrophe, qu'il faut l'empêcher en lui fournissant de quoi tenir au moins jusqu'en novembre. En tout cas, le calendrier de la guerre colle au compte à rebours présidentiel américain. Les Russes misent sur la victoire de Trump et ne lâcheront rien d'ici là. Et pour les Ukrainiens, le temps que le matériel arrive, eh bien on sera en juin. Une contre-offensive, même limitée à l'été, servira la campagne de Joe Biden.
Alors, regardons l'enveloppe financière, Vincent, elle est bien garnie. Hein. 60 milliards, 800 millions de dollars, c'est davantage que toute l'aide apportée depuis 2 ans. C'est une aide massive, c'est pas qu'un coup de main. Hein.
Oui, mais il faut relativiser, parce que dans le détail, il y a de quoi acheter pour 14 milliards de dollars de missiles, de IMAX, de pièces de rechange, c'est pas mal, mais c'est pas 60 milliards. Selon les experts, il y a là de quoi stopper les Russes qui ont conquis 400 km² ces derniers mois, mais pas assez pour mener une véritable contre-offensive. Du côté russe, Vladimir Poutine voulait obtenir un avantage militaire afin d'imposer un cessez-le-feu à ses conditions, une fois Donald Trump réélu. Le retour soudain de l'Amérique devrait l'obliger à renoncer à Odessa. Bref, la guerre d'attrition va donc continuer, c'est ce que prévoient tous les experts, et on sent le soulagement chez les Ukrainiens qui désespéraient. La manne ne règle pas leur autre problème, le manque d'hommes au combat. Ceux qui partiront au front, au moins, n'auront plus l'impression d'aller seuls et en vain au casse-pipe. L'Amérique est derrière eux, au moins jusqu'en novembre. C'est à cette date que le grand-fils de Mike Johnson entrera à l'Académie navale. On comprend son père, il préfère livrer aujourd'hui des armes à l'Ukraine plutôt que d'avoir un jour à y envoyer des combattants.
Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. 7h47.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Allez, place au livre du jour. Nicolas Carreau, ce matin, vous nous parlez du nouveau livre du prix Goncourt, Hervé Le Tellier. J'en montre la couverture sur Europe1.fr.
Mais oui, on l'attendait depuis L'Anomalie, qui était plus ou moins de la science-fiction. Depuis, on attendait Hervé Le Tellier, connu pour ne jamais écrire le même genre de livre. Et ben, on n'est pas déçu. Le voilà de retour chez Gallimard, avec un récit intitulé Le Nom sur le Mur.
Un récit, donc, une histoire vraie, c'est ça?
Oui, Le Nom sur le Mur, c'est celui d'André Chex. Hervé Le Tellier, un jour, a cherché à s'acheter une maison dans la Drôme. Il a dit à l'agent immobilier « Je veux une maison natale ». c'est-à-dire normal. Pas un bien atypique, pas une maison d'architecte, pas un truc biscornu, une chouette maison. Et il l'a trouvé à Dieulfi. L'ancienne propriétaire était céramiste et sous une plaque de céramique sur un mur, en la décollant, est apparu un nom gravé, André Chex, C-H-A-X, on dit Chex. Bon, ça arrive, les noms sur les murs, rien d'extraordinaire, mais ça a intrigué Hervé Le Tellier qui a commencé à fouiller un peu. Et cet André était en fait un maquisard tué par les Allemands en 44 à seulement 20 ans.
Alors ce livre, c'est la biographie de cet André Chex ?
Entre autres parce que donc Hervé Le Tellier mène l'enquête dans son village, mais aussi par sa famille et les archives. Il retrouve des objets qui lui ont appartenu, un porte-cigarette par exemple, fabriqué avec une douille, des lettres, des photos, il reconstitue sa vie. Il retrouve le nom de sa fiancée, Simone, la fille de Simone aussi, et comment André s'est engagé dans la guerre, mais aussi ce qu'il écoutait comme musique. Quel film allait-il voir au cinéma ? Le Retour de Zorro, par exemple, en 1941. Quel genre de bonhomme c'était, en fait ? Mais ce faisant, Hervé Le Tellier raconte aussi une époque et la guerre, et comment le nazisme est advenu, en passant par l'histoire, mais aussi par les expériences de psychologie sociale sur les manipulations des foules, type Milgram ou La Vague, vous savez, cette expérience menée par un prof américain à qui ses élèves demandaient pourquoi les Allemands avaient suivi le mouvement, et le prof avait créé une sorte de mouvement politique totalitaire dans sa classe pendant une semaine, et les élèves avaient suivi. Bon, il le raconte mieux. Il y a plein de digressions sur des sujets différents, et on reprend toujours le fil rouge de la vie de Dédé, André Chex, qu'on est bien content d'avoir rencontré. Il est très attachant. Et puis, il y a des photos aussi dans le roman, voilà. Enfin, dans le livre. J'ai dit roman, c'est presque un roman.
Exactement, il y a des affiches aussi. Le nouveau Hervé Le Tellier, donc le nom sur le mur chez Gallimard Collection NRF. Merci Nicolas Carreau. La série de la semaine, Héloïse Gouin, remonte le temps avec vous ce matin, avec cette série consacrée à l'un des pères fondateurs des États-Unis.
Eh oui, mais cette série se déroule en France, et notamment à Versailles. On est en 1776, à la cour de Louis XVI. Dans l'écrin luxueux de la Galerie des Glaces se promène un septuagénaire charismatique, à l'œil vif et aux Français, disons, approximatif.
Je suis peut-être très ancien, mais j'ai souvent appris que le sexe est mieux que la guerre.
Ah ben ça va, il se débrouille bien en français. Cet homme, c'est Benjamin Franklin, écrivain, inventeur du paratonnerre, dompteur d'électricité. Voilà le héros de la formidable série historique, Franklin. Franklin qui est ici, vous l'avez peut-être deviné, incarné par un Michael Douglas, absolument parfait dans le rôle de cet homme brillant, drôle et courageux.
Mais que fait Benjamin Franklin à la cour de Louis XVI ?
He needs help, Dimitri. Il a besoin d'aide pour libérer les États-Unis des Anglais. La révolution américaine bat son plein et les insurgés manquent de moyens pour remporter des batailles décisives. Franklin n'a aucune formation diplomatique, mais qu'importe, il compte bien faire céder un Louis XVI plutôt sceptique.
La dernière guerre nous a coûté le Canada, sans parler de nos possessions en Inde. Peut-être tous ces bavardages sur les libertés vous ont-elles fait perdre la tête. Vous n'entreprendrez rien avec le docteur Franklin au nom de la France.
Bon, là c'est mal parti, mais pour parvenir à ses fins, Franklin s'entoure d'hommes proches du roi, comme le général Marquis de Lafayette ou le dramaturge Beaumarchais. Mais des espions britanniques rôdent, c'est le début d'une intrigue palpitante, truffée de trahisons, de secrets et d'ego plus ou moins bien placés.
Bon, est-ce qu'historiquement, cette série tient la route ?
Alors, même si l'intrigue prend quelques libertés sur les histoires amoureuses, voire coquines de Benjamin Franklin, la série est très documentée. Elle est adaptée en fait d'une fiction biographique de Stacy Schiff, qui raconte les années de Franklin en Europe, fiction qui n'a pas été traduite en France. Plusieurs acteurs français donnent la réplique à Michael Douglas, hein, Thibaut de Montalembert, Ludivine Sagnier ou Jeanne Balibar. Tous sonnent très, très juste dans leur rôle. Les décors et costumes sont ultra réalistes. L'écriture est ciselée, la réalisation léchée. C'est un biopic délicieux et passionnant qui ne manque pas de caractère.
Voilà, Franklin à voir en ce moment sur la plateforme Apple TV+. C'est aussi disponible sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Gouin, merci Nicolas, merci Vincent. À demain les amis, 7h51 dans un instant sur Europe 1. Votre édito politique avec Vincent Trémollet de Villers, juste après le journal permanent Victor Porcher.
Des professionnels de santé devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur le projet de loi fin de vie. Ces travaux commencent aujourd'hui, mais 13 organisations de soignants plutôt opposées au texte déplorent de ne pas pouvoir s'exprimer devant les députés. Israël va augmenter la pression militaire et politique sur le Hamas dans les prochains jours. C'est ce qu'a promis hier dans son premier ministre Benjamin Netanyahou. Seul moyen, dit-il, pour remporter la victoire contre les terroristes et obtenir la libération des otages. Et puis alerte au cœur de vos compteurs électriques. 83% des installations d'avant 2010 présentent au moins une anomalie. Avec les risques d'accidents domestiques que cela implique, c'est la conclusion du baromètre de Promotelec qui réunit associations de consommateurs et acteurs de l'immobilier et du bâtiment.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trébolet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
Vincent.
Tous.
Vincent, dans l'entretien qu'il a accordé au journal du dimanche ce week-end, Jordan Bardella affirme que si les Français le placent largement en tête aux européennes le 9 juin, il demandera le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a donc choisi de donner une portée politique nationale à un scrutin européen. Pourquoi cette stratégie de Jordan Bardella selon vous, Vincent ?
Pour donner un enjeu décisif à une élection qui, comme l'a rappelé François-Xavier Bellamy hier, n'a pas d'autre objet que d'élire des députés au Parlement européen. Et malheureusement, le Parlement européen, c'est une perspective lointaine, voire décourageante pour la grande majorité des électeurs. Quand j'entends le mot « Europe », je sors mon oreiller, disait Claude Imbert. Et dans l'imaginaire collectif, le Parlement de Bruxelles joue le rôle du somnifère. C'est très regrettable, hein, parce que c'est à Bruxelles que se configure une partie de notre avenir, mais c'est un fait. L'enjeu central de cette élection désintéresse beaucoup d'électeurs, et notamment le cœur de l'électorat RN. Vous comprenez bien que ce n'est pas en 10 ans. Il faut augmenter le nombre d'élus dans le groupe ID pour dépasser le groupe ECR et fracturer le PPE tout en affaiblissant Renew que Jordan Bardella déplacera les catégories populaires aux urnes. Dans ce même entretien du JDD, le candidat du RN dit qu'il a peur de décevoir et c'est à l'aune de cette crainte qu'il faut comprendre cet appel à la dissolution. Il y a d'abord la peur de faire un score décevant comparé au sondage mirobolant. Il faut se souvenir que lors des dernières élections régionales, le RN avait été donné très haut et que les résultats finaux furent pour lui une douche froide. Toute la campagne, les enquêtes d'opinion avaient promis un triomphe au parti de Marine Le Pen. Triomphe qui s'est changé en demi-échec. Être au-dessus des 30% depuis si longtemps dans les sondages oblige Jordan Bardella à ne pas finir à 25%, ce qui serait pourtant le meilleur score aux européennes de toute l'histoire du RN. Et à cette peur du score décevant s'ajoute celle de la victoire inutile, c'est-à-dire gagner très largement l'élection sans autre effet que le plaisir d'un soir. Je vous rappelle qu'aux européennes de 2014, le RN était arrivé en tête avec 24,8% des voix et qu'en 2019, le RN était aussi vainqueur avec un peu plus de 23%. Mais pour les électeurs, l'effet fut aussi éphémère qu'une victoire en match amical pour un supporter de football. C'est donc pour dramatiser l'enjeu que Jordan Bardella a inventé sa version du célèbre slogan de Jean-Luc Mélenchon. Élisez-moi Premier ministre.
Mais sur ce que dit aussi Jordan Bardella, vous pensez qu'en cas de victoire écrasante du RN, Emmanuel Macron peut dissoudre l'Assemblée ?
À un mois des Jeux Olympiques de Paris, je n'y crois pas du tout. Un résultat aux européennes n'impose aucune décision aussi radicale et le chef de l'État déteste réagir à chaud à une crise politique. Seule une motion de censure peut provoquer une telle décision et encore ce n'est pas automatique. Et on imagine mal LR cherchant à faire tomber le gouvernement avant l'été. Et puis du côté du RN, on reste très partagé sur l'intérêt de passer par Matignon 3 ans avant une élection présidentielle qui s'annonce très favorable. Jordan Bardella, Premier ministre de cohabitation, ça peut aussi mettre fin à sa popularité exceptionnelle et donc entamer les chances de Marine Le Pen. L'histoire récente déborde d'exemples. Matignon rime rapidement avec déception.
Alors, sur le plan électoral, ce « Élisez-moi à Matignon », ça peut fonctionner ?
C'est une arme à double tranchant. D'un côté, cela peut mobiliser le vote sanction et la défiance est forte dans le pays. Je vous rappelle que c'est la dernière élection nationale avant que l'on passe à l'après-Macron. Mais d'un autre côté, cette menace de déstabilisation institutionnelle est contradictoire avec le travail de normalisation, de lissage, d'apaisement que mène le RN pour proposer, notamment auprès des retraités, une alternance sereine en 2027. Pour Jordan Bardella, il faut à la fois mobiliser Hénin Beaumont, sans inquiéter le Cap Ferret, électriser les partisans tout en rassurant les hésitants. C'est la nouvelle forme du en même temps.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémolet de Villers. À la une du Figaro ce matin, le projet de loi sur la fin de vie. Alors que la commission spéciale chargée d'examiner le texte se réunit pour la première fois ce lundi, parole aux soignants qui veulent être entendus à l'Assemblée. Merci beaucoup Vincent.
À demain.
Il est 7h57 sur Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le lundi 22 avril.
Nous fêtons ce jour deux martyrs lyonnais des premiers temps de la chrétienté au IIe siècle, Saint Épipode et Saint Alexandre, tous deux durement torturés après avoir refusé de renier le Christ sous le règne de Marc Aurèle. Dans un quart d'heure face à Sonia Mabrouk, Thibaut de Montbrial, l'avocat spécialiste des questions de sécurité, est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
Et maintenant, parlons aide à domicile dans l'instant Petit-Fils.
Bonjour, Cali Touré à Cloc. Alors, vous êtes auxiliaire de vie chez Petit-Fils au Chesnay et vous cuisinez et aidez au repas les personnes dont vous vous occupez, personnes auxquelles vous redonnez le goût de manger.
C'est ça, c'est exact. Au début, quand on arrive, elles se font livrer des repas, soit de la mairie, soit elles vont acheter des repas déjà faits. Donc, c'est à nous de leur faire des propositions, de leur dire, bon, on va manger frais, parce que ça fait partie de notre métier. Donc, en général, quand il y a des personnes du troisième âge, moi, je les fais participer. On va faire d'abord les courses ensemble. Quand on revient, on épluche ensemble. Je les fais goûter. Et l'appétit revient, hein. Parce que quand ils goûtent et quand c'est bon et bien fait, ils se disent, ah, ça, aujourd'hui, je suis au restaurant, là. Elles ont envie de manger. Elles revivent.
Merci, Cali Touré.
À bientôt pour un nouvel instant, Petit-Fils.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown. Oui, bah c'est très rouge, quoi, surtout. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Raven. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Raven, au livre de poche.
C'est si bon. Rouge des Prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En onglet.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snacké.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui.
Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370€ par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, prévu.